Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Comment on démarre ? Quel jeu ?
Shifumi,
c'est le truc le plus simple.
Ok.
C'est un jeu pour savoir qui, celui qui perd, démarre l'émission.
Et pas ton Shifumi pourri avec 3 secondes de retard.
C'est pas grave, même si elle est lente. C'est pas grave.
Moi je vais être lent aussi alors.
Non, il n'y a pas le puits.
Je vais être lent aussi alors.
Shifumi. Elle a fait 3 heures après.
Moi ? Moi je l'ai fait 3 heures après que lui.
Il y a égalité entre vous.
Allez,
Je me suis sorti alors que je perdais.
Non, là je te vois faire
ah ouais, encore. Shifumi.
Allez, c'est bon.
C'est François qui a perdu.
Oh putain.
Et donc c'est lui qui.
Mais c'est pas possible.
C'est lui qui lance.
Vas-y,
et générique.
Pas arnaqué. Mais il est bon perdant.
En générique. La Fabrique, avec Juliette Arnaud, Ramzi Assadi, François Audouin, et aujourd'hui, notre invité, Douli.
J'adore ta voix un peu sexy.
Merci Douli, j'adore ta voix un peu sexy aussi.
De voix à voix.
Et si on parlait comme ça tout au long du podcast?
On peut faire
Moi, je m'en fous, j'ai pas de vidéo, donc allez-y, vous pouvez parler tant que vous voulez, ça ne me fait rien.
Pardon, j'ai failli casser toute la table.
On a un problème de table. Vous entendrez tout au long du podcast un petit bruit, c'est la table qui se remet.
Voilà, exactement.
Voilà.
Bonjour à tous, bienvenue dans La Fabrique, le podcast consacré à la création, parce que François oublie encore le
faire. Mais j'oublie
tout le temps, c'est que le 8e épisode. C'est que le 8e épisode, donc t'as pas l'habitude. Ça, donc, avec Juliette Arnaud, comédienne, autrice, chroniqueuse aussi sur France Inter. Elle déteste que je le dise, mais il y a bien des auditeurs qui découvrent et qui ne savent pas qui t'es encore, puisque t'es pas dans tous les articles de presse.
Voilà.
François Audouin, auteur, réalisateur radio, mais également réalisateur de vidéos, de films, de courts-métrages pour l'instant.
Allez.
Scénariste également. Et notre invité, Douli, humoriste. Bonjour Douli.
Bonjour mes petits culs.
Juliette, c'est toi qui connais le mieux Douli.
Ouais, tu voulais poser une question d'entrée.
Voilà.
Ouais, d'entrée. Alors voilà, il y a quelques années de ça, je vivais dans une grande maison chez quelqu'un et je t'ai vu débarquer. Voilà, je t'ai vu débarquer dans cette maison et je me souviens assez bien de la première fois où tu m'as dit, en gros, j'arrive d'Espagne et je vais devenir humoriste. Moi, dans ma tête, je me suis dit. Ouais.
C'est un projet ambitieux.
Non, mais parce que je me disais, putain, il faut avoir sacrément confiance. Ouais. Parce que...
Non, confiance, c'était pas le mot. Hein. J'avais pas confiance du tout. Je m'étais donné 2 ans, mais pas 2 ans pour réussir. 2 ans, si au bout de 2 ans, tout le monde te dit, alors, ce serait pas mal d'envisager d'ouvrir un chiringuito au Mexique. Voilà, juste des petits retours sympathiques, quoi. Voilà.
Et à la base, tu faisais quoi en Espagne?
Écoute, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait prof de français. D'accord. Ouais, enfin, pour des Espagnols, quoi. C'est pas la Sorbonne non plus. Et j'ai monté une marque de fringues. Et puis après, j'ai commencé à faire des petits sketchs vidéo où je me grimais, en mec surtout. Parce que moi, tu me fous une moustache, je suis un mec.
Oh
non, je te jure que c'est vrai. Je te jure, même mon
mais
ex.
Mais moi, j'ai dit ça toute ma vie. Non, je mets du rouge à lèvres, je suis un mec.
Non, je te jure, c'était affligeant. Parce que moi, parfois, je mettais. En plus, j'avais acheté des moustaches et des favoris dans une boutique de Sinoche à Barcelone. Et qui étaient vraiment, tu sais, des vrais poils et tout. Et du coup, c'était vraiment réaliste. Et j'oubliais parfois, tu tournais les trucs à la maison, puis j'oubliais. Et puis mon ex, qui était un gros gitan, quand même un peu macho, il arrivait. Et puis moi, je voulais lui faire un bisou. Il me dit, alors pas du tout. Non, je ressemble vraiment à un mec. Attends, je vais vous montrer.
Bon, non, non, arrête. Alors déjà, ça c'est non.
Si, si,
non.
Sans maquillage, avec une moustache, je ne suis pas... Mais Angelina Jolie, tu nous fous une moustache, c'est Angelina Jolie avec une moustache. Moi, tu me fous une moustache, je suis un homme, je te jure.
Bon, oh là là. Alors déjà, un point, maintenant on a appris une vraie chose. Comment t'en es arrivée à te filmer, ça arrive, c'est pas, tout le monde ne fait pas ça. Comment tu te dis, j'ai envie de me filmer en faisant des choses sous le signe de l'humour.
Sous le signe de l'humour, bah, déjà, je pense que je me faisais un peu chier. Non, mais j'ai toujours voulu faire ce métier. Et à un moment donné...
C'est quoi toujours?
Toujours, depuis que j'ai 4 ans. Parce qu'on m'avait mis dans une école... qui n'existe plus, dans le 11e, c'était une école où on foutait rien, en fait, on travaillait, enfin, travaillait jusqu'à midi.
Putain, les cakes.
Mais ne me dis pas quand ça crame, mon Dieu, il y a comment qui a mis. C'est vrai que ça sentait le cake, mais...
Ça sent bon.
Mais ça sent pas le cake cramé, chérie.
Ils ont pas cramé. Non, c'est
si
bon.
Ça a cramé.
Mais non.
Non.
Pardon de t'avoir coupé, je te...
Mais t'inquiète, pardon. Chérie.
Donc vas-y, reprends, continue.
Et du coup, on faisait rien. Et à partir de midi, on faisait du théâtre. Toute la journée. On n'avait pas de devoirs et tout ça. Donc moi, j'ai tout de suite
tout l'après-midi, théâtre.
Tout l'après-midi, théâtre.
Ah, c'était un truc autogéré.
Oui, c'est
quoi,
ça, ouais. C'était un peu ça. On était hyper libres. Tu sais, on faisait à bouffer avec les cuistots. Enfin, tu vois, vraiment,
mais
on avait...
à 4 ans.
Bah, à 4 ans, non, je ne faisais pas bouffer avec les cuistots. Mais genre vers 6-7 ans, ouais.
Ouais, d'accord.
On commençait déjà à aller couper les patates et tout. Et du coup, c'était chouette et j'adorais ça. Et vraiment, bon, par contre, on avait un niveau orthographique et tout ça vraiment à chier.
Ouais.
Donc, à un moment donné, ils m'ont enlevé de cette école parce qu'ils se sont dit bon. Mais du coup,
à
je ne suis jamais.
Je
suis arrivée en CM2 dans le système normal.
Ouais.
Ça m'a traumatisé. Merci, chérie.
Ouais, parce que CM2, c'est quoi? T'as 10 ans, 9-10 ans?
Ils m'ont fait sauter une classe. Donc, je crois que j'avais 8 ans en CM2. Mais ils m'ont fait sauter une classe, pas parce que j'étais bonne, ils se sont juste plantés.
Comment ça?
J'avais 0 partout.
Ah oui?
Surtout en dictée, enfin, c'était une catastrophe.
Ouais.
Mais du coup, je me suis jamais posé la question.
Et ça a été un traumatisme, tu dis pour toi?
D'aller dans le système normal? Ouais. Oui, parce que nous, on faisait du sport, du théâtre et tout. Alors, OK, on était nuls, mais on était,
mais on était
heureux.
Ouais, mais et pas forcément nul en orthographe, nul
non,
dans le système.
Non, on s'exprimait bien, on savait bien écrire. Ouais. Ça, on savait bien écrire. Non, merci. Corona? Non. Toujours vodka, moi.
On n'est pas sponsorisé. Hein.
Et du coup, oui, non, mais du coup, je me suis jamais posé la question de qu'est-ce que j'aimerais faire, parce que j'ai toujours tout de suite su que j'aimais faire ça.
Ouais, de la scène, spectacle, enfin du théâtre.
Mais qu'est-ce que
pourquoi tu t'en es détournée?
La drogue, chérie.
Ah.
Non, si tu veux, j'ai fait du théâtre jusqu'à 17, 18 ans, 19 ans, j'ai fait les studios Pygmalion et tout ça.
Ah oui? Moi aussi, j'ai fait ça.
Mais t'as fait les studios Pygmalion? On t'a mis à poil et tout?
Ah oui.
Ah oui.
Ah bon,
vous êtes sérieux là?
C'est très sexe.
C'est
très sexe.
Non, mais c'est pas très. Enfin, c'est pas très sexe. Ça dépendait des coachs. Je sais qu'il y a eu des fois des trucs un peu.
Moi, ça m'a pas traumatisé.
Non, mais moi non plus.
Non.
Mais je sais pas à quelle période tu étais toi aussi.
Vous pouvez juste nous expliquer parce que nous.
Alors, studio Pygmalion, c'est une école
de cinéma.
Voilà, métier plutôt. Ils sont moins sur la technique, ils sont plus sur les émotions de comédiens, acteurs. Et alors moi j'y étais il y a en 2000
C'est pas grave, François, 10, je te jure.
2010, ouais.
Toi. Bah, j'ai été un peu avant.
J'ai lancé François sur une anecdote.
Et en fait, oui, et donc il y avait, c'est par des mois des thèmes, et il y avait le mois de la sexualité, ou le mois de la, du plaisir, tout ça. Ouais, et donc il y avait des exercices, on finissait à poil sur le plateau. Tout. Mais dans l'idée de se dire, quand t'es au cinéma, bah, des fois, il faut être à poil, jouer une scène à poil, face à plein de techniciens, et comment tu trouves une détente tout en restant nu, tout ça. Donc c'était fait avec, il y en a qui pouvaient ne pas le faire, ils pouvaient sortir.
Si tu voulais pas, tu le faisais pas. Ouais.
Et t'étais pas sanctionné par l'école ?
Non.
Non, c'est plutôt une formation un peu professionnelle, c'est-à-dire que tu étais au mois, c'est pas une année complète. Tu vois, tu pouvais venir faire un mois, aller en tournage.
Stage, non, mais je veux dire, si tu fais pas ce module-là, tu refuses de te mettre à poil, ce que tu peux refuser quand t'es comédien et comédienne.
Oui, il n'y a pas de problème.
Là, il n'y a pas de problème vis-à-vis de l'école, ok.
Ouais, non. Non, mais après, du coup, moi, je travaillais la nuit en parallèle, et s'il fallait payer le loyer.
Ouais.
Et à l'époque, tu gagnais extrêmement bien ta vie dans la nuit, dans le métier de la nuit. Tout était payé au black et tout, donc c'était génial. Et du coup, ils m'ont dit, à la fin des studios Pygmalion, ils m'ont dit, alors par contre, vas-y, fonce. Par contre, il va falloir faire un choix entre la nuit et le théâtre. Et bah, du coup, j'ai choisi l'oseille sur le moment. Hein. Et c'est surtout qu'à ce moment-là, je commençais vraiment à tomber dans la drogue.
Et donc, nécessité d'oseille.
Nécessité d'oseille. Et voilà. Mais du coup, j'ai arrêté pendant 10 ans et c'était horrible.
Ah ouais,
alors, j'avais envie de continuer, de me remettre un peu dans le truc. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos.
D'accord, ouais. Les vidéos, en fait, persos. C'est ce qui t'a ramené.
Parce que c'est horrible. Tu sais, il y a plein de gens que tu entends depuis que tu es tout petit. Des parents de potes et tout, dire « Oh là là, j'aurais adoré faire ça, et puis j'ai sacrifié ma vie pour vous. »
Oui, je suis devenue comptable pour la sécurité de l'emploi.
Et je ne voulais pas être cette personne. J'en arrivais même à avoir du mal à regarder un film où tu vois des trucs comme ça, parce que ça me renvoyait à mon propre échec de ça, puisque je n'avais jamais eu de doute de ce que je voulais faire. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce métier qui m'a donné envie de... qui m'a... vraiment aider à sortir de la drogue aussi. C'est ce que je dis à beaucoup de junkies qui m'écrivent sur les réseaux. une petite communauté junkies. Et je leur dis, trouve-toi un petit rêve, même un tout petit, mais aie envie de le réaliser à jeun. Voilà. Enfin, c'est...
Ouais.
Pour en profiter vraiment. Quoi.
Ce qui est un peu rigolo, c'est qu'on sait... qu'il y a plein d'acteurs, d'actrices et d'artistes en tout genre, de chanteurs, de nanana, qui sont gavés de drogue.
Ouais.
Mais qui tombent dans la drogue après.
Pas forcément. Il y a tout. Non, c'est assez ouvert. Hein.
D'accord.
Oui, et on le sait.
Ouais.
Et...
Bah, moi, si tu veux, ayant vu des photos de moi défoncées, prises comme ça, en soum-soum, j'avais pas spécialement envie de montrer cette image de moi... au public, quoi, tu vois. En plus, moi, avec ma maladie, si tu veux, ils m'ont remis, alors que j'avais arrêté l'héro, ils m'ont remis sous tramadol, sous codéine, le seul, en France, c'est le seul médicament pour enlever les douleurs.
Ouais.
Donc, du coup, quand j'ai commencé ce métier, alors ça se voyait pas forcément, mais les 3 premières années, j'étais déchirée sur scène, quoi. Mais déchirée au tramadol et tout ça. En plus, le tramadol ou les trucs en LP, en libération prolongée, tu sais jamais quand est-ce que ça arrive, l'effet. Donc, ça peut arriver au bout d'une demi-heure, au bout d'une heure et demie. Enfin, parfois, j'étais sur scène et il y a la pièce qui se rétrécissait comme ça. Tu sais, t'as les pupilles qui se rétrécissent. Donc, ça fait sombre comme ça et tu te manges une vraie montée de cam, quoi. Parce que c'est exactement la même chose. Hein. On dit, mais c'est le même produit, hein. Il y en a qui t'achètent Porte de la Chapelle, l'autre à la pharmacie. Quoi.
Ouais. Mais donc, t'étais sevré de la drogue et on t'en a redonné. Et après, il a dû te recevoir.
Légalement. Ouais. Et j'ai arrêté toute seule pendant le premier confinement. Définitivement. Là, vraiment, plus jamais. Quoi. Même si tu m'opères, je dis, ne me donnez pas d'antidouleur. Ce qui est compliqué. Oui. Si tu m'arraches un bras demain, je suis dans la merde. Mais parce que le Doliprane, à un moment donné, a ses limites.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a toujours... Enfin, on a aucune... Enfin, là, il n'y aurait pas la crise des opioïdes comme il y a en ce moment aux États-Unis. Si on avait trouvé d'autres solutions que les opioïdes.
Mais il y en a d'autres. Hein. Je pense réellement qu'il y avait un médecin qui m'avait dit juste... ça fonctionne, ça fait de l'oseille. Ils ne vont pas aller se faire chier plus longtemps. Quoi.
Ouais. Voilà.
C'est exactement ça, l'idée, hein. Parce que...
Oui, mais ça marche, par exemple, pour la pilule aussi.
Ouais.
Où, oui, mais il y a des effets secondaires. Oui, mais nous, ça nous arrange que ce ne soit pas les hommes qui s'occupent de ce genre
ouais,
de truc.
Ouais, vraiment.
Donc, on va continuer sur la
pilule. Non, mais il y a ce truc, et puis il y a ce truc, tu vois, des mecs qui se font arracher une dent. Moi, ça me scandalise. Un pote qui se fait arracher une dent, on lui met du tramadol. Mais pas du tout. Le tramadol, c'est de l'opium, les gars. Enfin, je veux dire, un doliprane ou un Advil, ça suffit. Hein. On n'est pas. Tu vois, ils ne te l'ont pas arraché à vif, la dent. Tu vois.
Ouais, donc, ouais. Du coup. Les douleurs dentaires, c'est quand même hyper violent.
Ouais, mais tu peux les supporter.
Le risque addictif, il est tellement grave que.
Ouais.
Et puis, tu te fais anesthésier quand tu te fais arracher une dent.
Oui, mais même après coup, oui, ça enfle. T'as des nerfs qui sont.
La fabrique, le podcast
non,
dentaire.
Mais, non, mais je dis ça parce que j'en sors de 2 ans de ça. Donc, j'avais la gencive.
Enfin, on sait un peu des choses de Ramzy.
Mais pour autant,
je me suis fait opérer des dents. Super.
Mais pour autant, t'as pas pris de tramadol.
J'en ai pas pris parce que je te l'ai donné.
Je l'ai pas pris. Par contre, j'en ai une réserve.
Oui, oui. Bah oui, oui. Non, mais
moi je veux bien goûter, moi, par contre.
Non, je m'en fous.
Mais c'est très dangereux, ce truc, parce que même là, je sais plus quand, j'ai un copain qui m'a dit putain, j'ai pris un tramadol, c'est génial. Ce truc. Je dis bien sûr que c'est génial. Mais oui, parce que.
Moi, je l'ai pas pris parce que j'avais pas suffisamment de douleur pour le prendre et parce que c'est vrai que j'étais prévenu. Par toi,
ça va très vite
de l'addiction que ça apporte,
sans blague, c'est deux cachets,
non, mais
quoi,
pour le coup
ah ouais. Un tempérament addictif, deux cachets et ouais. T'es en ouais. Bad
mais
non,
parce
pour
que
le coup, la dentiste ne m'a jamais prévenu de quoi que ce soit,
mais aucun médecin français il file du tramadol à tour de bras.
C'est surtout que l'opium c'est quand même le truc, je veux dire, demain on t'annonce une troisième guerre mondiale, vraiment tu t'en bats les couilles, t'es heureux avec tout le monde, avec tous les projets, avec tout est super. Donc si on te donne ça à un moment donné où t'es un petit peu dans un creux de la vague, tu dis oh là là, j'ai plus mal aux dents, mais j'ai plus mal au cœur non plus, à l'âme, tu vois. Et donc là, ça devient dangereux. Ouais. Et là, les mecs, plus ça va, après, ils essayent de rechoper des ordonnances et tout ça, machin. Et résultat, moi, j'ai lu pas mal de blogs là-dessus sur des témoignages de gens. Et le mec, il se fait arracher une dent en janvier. Et en décembre, donc un an après, on le fout sous Subutex ou sous méthadone. Alors qu'il s'était fait juste arracher une dent, quoi. Donc c'est très très grave.
Bah parce que c'est la crise des opioïdes transforme des gens qui n'ont rien de junkie ou de toxicomane.
Qui n'ont rien demandé.
En junkie, en toxicomane. Ouais. Mais des gens de tous les âges, de oui, tous oui. les niveaux sociaux. Ah ouais. Y a plus de, c'est tout, non, le monde, non, tout le monde,
tout le monde.
Ah, ok.
Voilà.
Et donc,
ça c'était la parenthèse.
C'est une parenthèse importante dans ta vie et dans ton parcours.
Ouais.
Parce que c'est quelque chose qui t'a suivi et qui a eu un impact sur ton.
Ouais, ouais.
En plus, on n'a pas eu de gens jusqu'à présent qui nous ont dit que ça leur datait d'aussi ancien, enfin que leur désir de faire
ce métier
leur venait d'aussi loin.
Ah ouais, je me suis jamais posé la question. Si, juste avant mes 4 ans, je voulais être ébéniste. Allez savoir pourquoi.
Je sais pas, Jésus. Je sais pas.
T'es Jésus. Non, j'avais mon parrain qui était ébéniste, il faisait des meubles magnifiques, alors j'adorais. Mais
sinon, ça a toujours été ça. Et ça a toujours été spécifiquement faire rire ou être actrice. Enfin.
Je crois comédienne, mais par contre, par exemple, tu vois, ça m'a toujours saoulée d'imaginer aller jouer du Corneille ou quoi au théâtre de l'Odéon, tu vois. Je ne me voyais pas du tout dans cette personne.
Mais pourquoi ?
Mais pas, bah parce que j'ai du mal à me prendre au sérieux, tu vois. Et il faut être il faut se prendre un peu au sérieux pour jouer ce genre de truc. J'admire complètement, mais j'ai du mal à pas mettre ma petite touch, tu vois. Et le truc, c'est que...
Ah, c'est du tout chose, Alexandra. Il y a un
c'est
moment
du tout chose, ça peut se voir.
Ça peut s'entendre.
On va le sentir, Douli. Que tu as mis Narvalo au milieu de l'Alexandra.
Et c'est la seule chose qui te retienne. On ne peut pas imaginer que les années passant, je rappelle qu'il y a quand même très peu de temps, t'es arrivée d'Espagne,
ouais.
Et personne ne savait rien de toi, t'avais pas de réseau parisien,
non, rien.
Ni rien.
Quiche,
voilà. Et là maintenant, ça y est, t'es une humoriste
installée. Ah non, par contre,
j'adore,
là on m'a donné des rôles, par exemple au Cinoche, là, des trucs que j'ai joués, c'était pas des trucs drôles, hein. Mais j'aime beaucoup jouer. Pas forcément sur scène devant un public, mais par contre, jouer des rôles au Cinoche ou sur une série ou quoi, un peu dark.
Ouais.
Ça, j'aime beaucoup jouer du dark. Mais pas forcément sur scène. Tu vois ?
Ok. Mais donc, on a fait une ellipse, là, c'est...
Très grande, mais grande, ouais. 10 ans de rien, et tu te remets à faire des vidéos en Espagne. Voilà.
Ouais. Enfin, 10 ans de rien, si, j'étais... Ouais, enfin, j'ai fait des...
Artistiquement,
métiers,
je veux dire,
ouais.
Oui. Artistiquement,
dans ton métier de comédienne, ouais. C'était une parenthèse.
Ouais, c'était une parenthèse, ouais, à peu près 10 ans. Hein.
Mais qui a sans doute nourri le reste.
Ouais, oui,
d'ailleurs.
Ouais,
forcément. Clairement nourri le reste.
C'est un chemin de vie.
C'est un chemin de vie.
Placé sous le signe de l'humour.
J'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule. Je sais pas quoi le prendre. Donc, alors, comment. Donc, tu fais ces vidéos sur YouTube?
Ouais.
Et YouTube Espagne.
Alors là, il y a quelqu'un qui me repère sur les vidéos et qui me demande de venir faire un festival. Non, un festival de avec 45 minutes de spectacle. Moi, j'ai rien à ce moment-là. Donc, je décide de mettre tous mes personnages. Donc, j'écris en un mois tout 45 minutes de spectacle avec ces personnages où il faut faire des changements de costume et tout ça, tu vois, parce qu'il y avait un curé, une attachée de presse Kaïnoman, une extrémiste bio, une hôtesse de l'air, enfin bon bref, tout ça. Et du coup, j'apprends 3 jours avant ce truc-là, qui me foutait les chocottes de fou, j'apprends 3 jours avant ce truc-là que... Mais c'était Eliane, d'ailleurs, qui m'avait fait répéter ce truc-là. Une amie qu'on a en
commun, Eliane. La dame, la grande dame.
Ouais.
Qui avait une grande maison dans laquelle on se retrouvait. Ouais, ouais. Hélène Boëri, qui a été. Elle avait un trio d'humoristes ultra célèbre en France dans les années 80 qui s'appelait Les Jeunes.
Les Jeunes.
Et donc, ça, c'était en France qu'elle te proposait.
On m'a proposé ce truc-là et j'apprends 3 jours avant d'y aller. J'ai une pote qui cherche sur Internet. Elle me dit: je trouve pas de festival des tempes. Et là, au bout de 10 minutes, elle me dit: ah, j'ai trouvé. C'est la foire des tempes. Et alors là, c'est-à-dire que ton monde change vraiment. C'est-à-dire qu'entre le festival et la foire, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Tu vois, moi, je suis arrivée dans ce festival, enfin dans cette foire, du coup. Le mec m'avait vendu du rêve. Il m'avait dit: je te mettrai sur une scène, tu vas voir, ça va être incroyable et tout ça, machin. Il m'avait fait tout un pitch. J'arrive, bon, déjà... On vient me chercher, on me fout dans une camionnette avec des barreaux. C'était un peu comme pour transporter les chiens et tout, tu vois. Et là, t'avais tous les déchirés du festival qui étaient: « Alors, Jean-Jean, tu nous ramènes une petite et tout ?» J'étais: « Oh là là, l'enfer. » J'arrive, mais je vous passe les détails, hein, parce que c'était un enfer. Ah oui, j'avais un personnage de fée, et le mec m'avait dit de passer dans le festival d'abord pour aller voir avant le show.
La foire, tu veux dire.
Dans la foire, ouais. il m'avait dit de passer pour dire: venez me voir jouer à
17h.
De la retarde, quoi.
Voilà, et donc j'étais allée en fée, parce que moi, mon personnage, c'était une fée déchirée qui avait connu tout le monde. Elle avait connu tout en Camon et tout, et elle était là depuis le début. Elle fumait des grosses plifs et tout. Sauf que là, et en plus, attends, petite parenthèse, j'avais un copain, j'avais accueilli des SDF quand j'avais 16 piges chez moi, et j'avais un des SDF que j'avais pas revu depuis 1000 ans qui m'avait dit: putain, je viens de voir que tu passes à l'étampe, j'ai un squat à côté, est-ce que je peux venir? J'ai dit: bien sûr, tu peux venir, Juju. Et du coup, Juju arrive pieds nus, avec des plumes dans la barbe et tout machin, t'sais, avec sa chienne qu'il avait appelée Alcoolémie. Et du coup, moi, je me baladais dans la foule. Et il y avait tous les gamins qui venaient me voir parce que j'étais en fée, tu vois. Donc, je savais pas que c'était une fée déchirée, bon. Et il y avait Juju à côté qui était là: Alcoolémie, reviens. C'était un enfer parce que... Du coup, et le mec de la foire vient me voir, mais il m'avait pas respecté du tout. Tout ce qu'il m'avait demandé, tout ce que je lui avais demandé ou tout ce qu'il m'avait vendu n'était pas là. Et donc, il vient me voir et me dit: Douli, est-ce que tu pourrais demander à ton ami d'aller un peu plus loin?
Juju, parce qu'il
fait... Ouais, Juju. Parce qu'il fait peur aux enfants. Et le truc, c'est que du coup, je lui dis oui, mais je n'ai jamais demandé à Juju de partir parce que le mec ne m'avait pas respecté. Juju faisait chez personne. Tu vois. Mais c'était un enfer. J'aurais demandé un paravent, il ne m'avait pas mis de paravent. Il m'avait dit: bah, tu peux aller te changer dans la tente là-bas. Sauf que moi, dans les changements de costume, je devais parler en même temps au public pour pas qu'il y ait un plan quoi, de 10 minutes. Et donc, je lui ai dit: bah, non, ça ne va pas être possible. Donc là, il m'apporte un paravent à jourer. Je lui ai dit: mais le but d'un paravent, c'est quand même de cacher la personne, non? Je vais monter sur des bottes de foin pour monter sur scène. Je me cassais la gueule à chaque fois. Enfin, c'était un enfer. Il m'avait mis une bonnette accrochée à un cintre. Enfin, c'était une horreur. Et il y avait une vieille assise sur le bord de la scène, vraiment, et elle commentait tout. Tout. Et j'ai eu les larmes aux yeux, vraiment, en sortant de cette scène. C'était émotionnellement très très compliqué. Ah oui, en plus quand j'allais voir les gens déguisés en fées pour leur dire vous aimez l'humour, venez, et j'avais des... non. et moi je revenais d'Espagne disant de gens gentils, tu sais, de gens hey, super, que pasa a ti, corazón, et tout, tu vois, et là je me prends des vous aimez l'humour, non, vous aimez rigoler, non, pas du tout, va te faire reculer, vraiment, on n'ira pas te voir jouer, bon, ça ne nous intéresse pas.
Ça c'est ta première, de ton premier spectacle, quoi.
Ouais,
c'est ta première scène.
C'est ta première scène, c'est ton premier cachet.
Ouais.
Enfin, t'as été payé?
Oui, c'était bien payé d'ailleurs.
Ah,
je me souviens que c'était.
Alors, mais c'est
c'était
ça sur... les foires. Ouais, les foires. C'est pas...
Ouais, bah c'est les mairies. Mais c'était horrible. J'étais sur scène. En plus, il y avait Monique avec son micro qui était là. On cherche petit Nicolas, machin. Il était devant la scène. Elle vendait des tondeuses à côté. Je lui disais, mais je joue 45 minutes. Tu peux attendre là, non?
Avant de l'allumer, ta tondeuse.
Ah, des tondeuses, des pelouses, enfin des trucs, c'était l'enfer. Et en plus, c'était sur 2 jours, donc j'ai dû y retourner le lendemain.
Ah oui.
Ouais. Donc voilà, ça c'était la première scène. Et après,
donc c'est ce qui lance ta carrière en fait.
Ça a été incroyable. C'est un petit peu le grand démarrage, quoi. La foire des temples.
Et après, t'as fait ce que font, moi que je connaissais pas du tout. Il a fallu que je te rencontre toi pour comprendre.
Ouais, les plateaux.
Oui.
Ouais.
Et que par soirée, tu pouvais faire 3 plateaux différents,
ah oui, voire
dans
6.
3 endroits
différents. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Puis au début, j'allais jouer dans les trucs où vraiment personne n'allait me voir. Tu vois, genre, je le disais même pas. Et je me souviens d'un endroit dans le 18e, et j'ai joué devant 3 Italiens et le patron. Et les Italiens qui ne parlaient donc pas français, et le patron qui était un peu déchiré. Mais je voulais m'habituer à cet exercice sans rentrer en PLS sous ta douche le soir, quoi.
Ouais.
Là, en termes d'ego, tu as 3 Italiens, un patron déchiré, il rigole pas, tu le prends pas personnellement. Tu vois.
Ça sert à quoi alors?
Bah, du coup, à t'habituer à être toute seule sur scène et tout, parce que moi j'avais fait que des pièces de théâtre avant. Donc tout seul sur scène, ouais, c'est un...
Et alors le fonctionnement des plateaux, tu peux peut-être expliquer comment...
Bah,
quoi,
tu viens,
exactement,
tu joues entre 5 et 15 minutes selon les plateaux. Et puis
donc c'est dans les différents comédie clubs.
Ouais. À l'époque, il n'y en avait pas énormément.
C'était en quelle année ça environ? Dans les années 2010,
2010. Non, j'ai commencé vraiment le stand-up en 2018.
Ah,
oui. Ça, c'était vraiment début 2018. Et après, je ne sais plus qui m'a vu, ils m'ont mis au Paname. Et alors, le directeur du Paname, Karim, il était en vacances quand on m'a programmé. Normalement, tu passes par le labo. Mmh. Mais moi, comme j'avais été conseillée par des gens qui étaient là depuis longtemps, ils m'ont mis tout de suite sur les gros plateaux. Il y avait les mecs qui déchiraient tout, tu vois. Et du coup, ça a été très dur émotionnellement parce que vraiment, tu alors c'est génial de bosser avec des gens doués, mais quand toi, tu ne l'es pas, c'est vraiment tous les
ça
soirs que tu
inhiber,
chiales sous ta douche.
Ouais,
quoi.
Ouais. Passer
mais
après quelqu'un
force.
Qui a cartonné, c'est compliqué.
Si
toi, c'est pas encore fort.
Bah non, parce
voilà,
que sur ces plateaux, normalement, il n'y avait que des bons. Hmm. Donc, du coup, mais en même temps, ça fait bosser parce que du coup, tu te dis, il faut vraiment de l'efficacité très rapidement. Là, il va falloir trouver la boîte de l'efficacité.
Parce que moi, de ce que je voyais de toi de l'extérieur, c'est que de toute façon, tu étais prodigieusement drôle. Et en plus, tu avais un capital sympathie. Voilà, tu fais partie des gens qu'on trouve aimables. Ça, c'est comme ça. Mais moi, je me souviens très bien qu'au début, tu faisais beaucoup de personnages.
Oui, ouais. C'est ça. Ouais.
Et ça, en plateau, tu ne peux pas le faire.
Voilà. Non. Et qu'à un moment, tu as basculé.
Mais oui, parce que j'étais restée accrochée à mes petites conneries d'Espagne, parce que c'était le seul matos
oui,
que j'avais.
C'est important. Ouais.
Non, en plus, j'aimais bien. Il y avait des persos. Là, il y en a un que j'aimerais bien remettre dans le spectacle, mais en rappel, tu vois. Le problème, c'est que tu ne pouvais pas, comme ma vie, déjà, et la moitié des gens, souvent... J'ai eu souvent ce truc où parfois, en soirée, j'avais tout le temps des anecdotes et tout, et je sentais au bout d'un moment, si c'était des gens qui ne me connaissaient pas, qu'il y avait un petit soupçon de mythomanie, tu vois. Mais parce que j'ai commencé la vie active à 14 ans. Donc forcément, à 25 ans, j'avais déjà la vie d'un mec de 68 ans, tu vois. Donc ça pouvait être bizarre. Mais du coup, les trucs vrais que je racontais dans le spectacle, en mode stand-up, stand-up. Quand je passais en personnage, du coup, les gens, ils savaient plus si ce que je racontais en stand-up était vrai ou pas.
Mais pourquoi t'as choisi de basculer dans le stand-up? Alors, t'avais des personnages qui marchaient.
Ouais.
Qui te plaisaient.
Oui, oui.
Pourquoi toi, t'as décidé de.
Parce que j'aime bien la discipline. Et puis en plus.
Discipline du stand-up.
Ouais.
C'est-à-dire l'exercice qui consiste à monter sur scène et en 5 minutes, retourner une salle.
Oui, c'est ça. En plus, t'es vraiment libre. C'est-à-dire que quand tu dois te trimballer en tournée avec tes costumes, à demander à Jean-Jean Régis, qui est dans la salle depuis 58 ans, et qui te dit t'inquiète, je gère, et qui te chie tous les tops, à un moment donné, tu dis bah, on va enlever tout ça. Hein, parce que là, vraiment, t'as juste besoin de rien, quoi. Faut juste assurer que le mec, à l'autre bout du monde, il a un micro et qui fonctionne et c'est réglé, quoi.
Ah, donc c'est pour des questions pratiques.
Bah non, j'aimais bien la discipline, ouais. Mais en plus de ça, techniquement, c'est plus simple. Quoi.
Et puis il y a la question de l'économie. Je ne sais plus avec qui on en a déjà parlé, mais le fait que n'importe quoi qui est un tant soit peu théâtral, ça coûte plus cher.
Ouais, ouais.
Jamie Lemounière, je pense.
Ouais. Bah, il faut porter, ou sinon tu fais ce que nous on a fait avec Pénélope, c'est-à-dire tu portes tes décors, tu portes tes costumes,
ouais,
tu laves tes costumes.
C'est un enfer.
Vous faisiez ça sur Pénélope ?
Oui.
Mais tout, ça a duré
des
années.
C'est vous qui laviez vos costumes ? Vous aviez pas un régisseur ou quelqu'un qui s'occupait de ça ?
Mais jamais.
Enfin,
les dernières années, quand le spectacle était une grosse réussite et qu'on était dans des beaux théâtres. Mais sinon, jusque par exemple au Café de la Gare, non, bien sûr que pas.
Non.
C'est à nous,
qui... Les décors aussi ?
Bah, les décors, il fallait qu'on vérifie tout.
D'accord.
Enfin, c'était vous.
Mais c'était pas vous qui
installez le décor, ouais. Non. Au Café de la Gare, par exemple. Mais par exemple, toutes les années avant.
Dans la tournée et tout ça, c'était vous qui installez.
On les portait.
Ouais, ouais.
On prenait le TGV avec notre bordel sur le dos. Ouais. Et tu vois bien que même si tu as écrit, nous, on avait pensé à écrire une pièce en réfléchissant à qu'on n'aurait pas d'argent. Mais quand même, il faut
oui,
bien.
Oui.
On avait deux sièges gonflables, mais il faut encore les porter. Quoi. Ouais. Il faut aller à la station-service les gonfler pour après
oui,
partir de la station-service avec tes machins sur la tête et les amener au théâtre. Enfin,
vous n'avez pas acheté de gonfleurs ?
Mais ça prenait un temps fou.
Ouais.
Ça prenait un temps fou. Au bout d'un moment, on a arrêté les gonfleurs. On voulait même les gonfler à la bouche. Bon, y en a deux qui sont évanouis. On a fait bon, allez, station-service. Là, ce genre de conneries.
Mais j'admire les gens qui font. Moi, j'ai jamais foutu un pied à Avignon, mais ça ne me fait pas du tout rêver. Mais j'admire les gens qui font ça, quoi, qui viennent lâcher des 20 000 balles.
Par exemple, quand Constance nous parle de ces spectacles, c'est vrai que ça a l'air d'être une tannée, transport de tous ces costumes.
T'es seul dans le cas de Constance. Nous, au moins, on était trois. Donc, on se prenait des fous rires terribles et on se regardait, on se disait, on a bien fait d'arrêter nos études.
Oui.
Vraiment, on a bien fait. Parce que c'est vraiment une belle réussite.
Dans la situation où tu portes ton truc gonflable, vaut mieux être avec quelqu'un, au moins,
voilà.
Vous auriez...
Mais Constance, mamine, en plus, oui, elle se fade tout ce côté pratique qui est compliqué. Et en plus, elle est seule.
Ouais. Non, ça c'est...
Vraiment... Ça me paraît cohérence que le switch que fait Dolly. Moi, ce qui me paraît étrange, c'est que tu nous dis et je te crois, hein, moi j'y connais rien, qu'entre 2018 et maintenant, le nombre de comédie club a explosé.
A explosé juste avant le... Non.
Confinement.
Juste... Alors, avant le confinement, tu en as quelques-uns qui ont ouvert. Enfin, tu en as deux, je crois que tu as le Barbès et le Sarfati, si je ne dis pas de conneries. Et après, ça a été l'explosion, quoi. Le fridge, le joke, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avant, en fait, ce qui était souvent le cas, quand j'ai commencé, bon, tu avais le Paname, qui était vraiment l'endroit où on était tous là tous les jours. Et ensuite, tu avais des mecs qui prenaient une soirée dans des bars, tu vois. Donc, tu savais que le lundi, par exemple, il y avait tel mec qui faisait un comedy club, mais juste pour une soirée. Donc, tu faisais le tour des soirées des mecs qui squattaient un bar pour la journée, quoi. Enfin, pour la soirée.
Et le fait d'être seule, justement, ça t'a jamais fait...
Si, alors c'est vrai que... Si c'est chiant...
Ouais.
Ouais. oui, si. Bah, quand tu pars en tournée tout seul, là, par exemple, là, j'ai un régisseur, là, c'est quand même exceptionnel. Il est cool et tout, en plus. Et vraiment, ça change la vie, quoi. Parce que quand t'es tout seul, comme ça, avant ton spectacle, dans une espèce de loge avec des néons... Qui n'en est pas une. Avec des néons, une chaise en plastique, et que t'es là, comme ça, à attendre, avec des gens, en plus, au début, qui ont un petit peu leur carte d'abonné. Si tu veux, ils ne savent pas du tout ce qu'ils viennent voir. Et en vrai, il y a des endroits où le stand-up n'était pas encore trop arrivé à la mode. Et du coup, ils étaient très déçus de ne pas voir une perruque ou un costume, quoi.
Ouais.
Donc, ah, c'est vraiment toi qui vas nous parler de toi pendant une heure, là, avec un micro. Oh là là, les moments de solitude, putain. Non, non, c'est violent. Et c'est vrai que tu te sens très seul dans ces métiers. Stand-up, tu es seul, quoi. Je veux dire, tu es tout le temps entouré, mais tu es très seul, quoi. Mm. Oui, sur les pièces de théâtre et tout, c'est vrai que les petits fourrures sur scène et tout, tu vois, les petits trucs avant de monter sur scène, après, c'est quand même chouette, ça.
Bah, c'est-à-dire que les vents, tu les partages, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, parce que... Ah bah là, j'ai testé un passage où je voulais... Tout neuf. C'était aux soirées première fois d'Yacine Bellous. Mmh. Et c'était un public très woke, très blanc. Et du coup, 500 personnes. Hein, et vraiment,
combien ?
500 personnes. Et tu testes vraiment.
500 personnes ?
C'est le but de la soirée, c'est de tester un truc que tu n'as jamais fait devant personne.
Ouais, je ne pensais pas que c'était devant 500 personnes.
Et là, je suis arrivée, j'ai dit, bah voilà, j'ai une annonce à faire, je crois que je suis arabe. Je me sens arabe depuis toute petite et tout. Un silence de mort. Ils ont dit non. Non, non, Julie, tu n'es pas arabe. Et non, on ne valide pas cette information. Alors, bien évidemment, bah, c'est toujours ça. Les fours, après, ça te permet... Alors, il ne faut pas en abuser. Mais ça te permet de réécrire le truc. Je me suis dit, en fait, les Blancs ne sont pas prêts à entendre que je suis arabe. C'est peut-être le mot arabe. D'ailleurs, Yacine m'a dit, tu aurais dit tunisienne, algérienne. Peut-être que ce
rebeu.
Serait mieux. Ouais, ou rebeu. Mais le mot arabe, et je le dis trois fois au début du passage, ah, ça les a glacés.
Mais pourquoi ?
Non, mais c'est
bah, parce qu'ils m'ont... Alors, j'ai entendu appropriation culturelle. Oui. J'ai entendu fétichisme.
Non, mais c'est le même truc que Clémentine Sellarié, qui a dit il y a un mois. Moi, je me sens, je suis noir, je me sens noir. Mais sauf que les gens lui ont dit oui, mais sauf que ça c'est bien de te sentir noir ou machin. Mais en fait, tu ne sais pas ce que c'est d'être noir 24 heures sur 24.
Oui.
Et c'est pas la même chose de dire oui, mais je ressens les mêmes choses. Bah non, parce qu'en fait. Quand t'es noir ou là, quand t'es arabe, bah en fait, les discriminations que tu subis au quotidien, tu vois, typiquement les discriminations que moi j'ai à l'entrée de Radio France.
Et que je n'ai pas.
Que toi, tu n'as pas, et que François non plus n'a pas. Et ben, moi, je les ai tous les jours, donc je suis obligé d'en faire plus. Donc, non, mais je pense que peut-être que le public aussi l'a senti comme ça, ce truc-là.
Bah,
si tu me dis que c'est un public woke, machin.
Oui, mais parce que moi, j'avais écrit à la base pour le Marrakech du Rire qui a été annulé. Et du coup, je savais qu'en disant ça devant des rebeux, le fait de dire je suis, ça allait les faire marrer, tu vois. Parce qu'on voit bien que je ne le suis pas.
C'est ça. Le décalage n'a pas été perçu et ils se sont dit, ah bah non, là. Il y a eu un truc de premier degré qui est passé.
Mais c'est le mot vraiment arabe. Parce qu'en plus, après, je te dis que j'ai toujours traîné en djellaba, que j'adore la musique orientale. Bon, là, ça a commencé à rire un peu quand je dis que je ne peux pas faire les you-you. Du coup, je suis dégoûtée. Vous avez fait you-you-you-you. On est plus sur un didgeridoo, quoi. Mais oui, il y avait plein de trucs. Et après, ça partait dans d'autres trucs, tu vois. Le fait d'être toujours attiré par les rebeux et tout ça, tu vois, d'avoir ce truc vraiment... très très attiré par la culture rebeu, quoi, tu vois.
Mais oui, explique comment toi dans ton cas.
Ben je sais pas. Peut-être mon père, il a des origines iraniennes, mais ça n'a rien à voir parce que c'est des Perses, mais c'est pas pareil. Mais j'ai toujours eu ce truc d'attirance, même physique, vers tous les Méditerranéens, quoi. D'ailleurs, c'est ce que je disais dans le passage. Je dis, enfin, tout ce qui est de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté du périph', quoi. je fais pas de discrimination, quoi. Moi, Grèce, Portugal, Jordanie, enfin, tu vois, tout ce qui est basané, plus, quoi. Tu vois. Jean-Michel avec son petit pull autour du cou ne me fait pas rêver. Voilà. Ni Benoît.
Et Jean-Luc non plus.
Et Jean-Luc non plus.
Et donc tu dis, par exemple, quand tu fais les soirées où tu fais 4 comédie club dans la soirée, est-ce que tu fais à chaque fois le même passage dans les 4?
Ça dépend, parce que 4 fois le même passage. Bon, au début, quand tu commences, oui, tu fais le même passage.
Tu fais le même et tu essayes de rectifier.
Ouais.
Entre deux passages,
oui.
Ça se passe comment?
Tu peux faire ça. Parce que en plus, tu as quand même pas mal de collègues sympas qui sont là depuis plus longtemps que toi et qui te disent, bah là, ça, si tu le mets comme ça, ça fonctionnera mieux.
Ah, mais ça, c'est cool.
Ça, c'est chouette, ouais. Il y a vraiment.
Il y a de la bienveillance.
Moi, en tout cas, j'ai eu de la bienveillance. mes collègues ont toujours été bienveillants avec ça.
Ah, c'est chouette.
Ouais. Oui, oui, j'ai plein de potes qui m'ont.
Et tu vois les effets, par exemple, je sais pas, il te dit ça. Tu le testes dans le prochain Comedy Club et tu vois l'effet tout de suite.
Ouais.
Ok.
Après, il y a toujours la chance du débutant. Donc la première fois que tu fais putain, c'est génial. Et puis le lendemain, tu fais bah non, c'était pas si chouette que ça. Mais tu vois, par exemple, pour revenir au truc Rebeu ou Renoir et tout ça, moi j'avais une vanne à un moment donné. Alors c'était drôle parce que ça, les Renoirs étaient morts de rire dans la salle. Quand il y avait que des blancs, ça riait pas. Et quand il y avait des blancs et des Renoirs, eh ben les blancs regardaient les Renoirs pour savoir s'ils avaient le droit de rire. Et la vanne, c'était que c'était plus difficile de trouver du taf quand t'avais l'air bourré que quand t'étais Renoir, parce que du coup il y avait pas de quota éthylique dans les entreprises, tu vois. Et c'est pas du tout raciste, quoi. Au contraire, tu vois, c'est genre vous en chiez, moi aussi, quoi, tu vois. Et je me souviens, je crois que c'est un des rares commentaires YouTube que je suis allée voir dans ma vie parce qu'il m'a suffisamment traumatisée. Il était passé sur je sais plus quel réseau, ce truc-là, il avait été filmé. Et il y avait quelqu'un qui avait commenté « Décidément, le racisme n'est pas fini en France. En plus, tout le monde rigole. On dirait une réunion néo-nazie. » Et j'ai dit « Allez, j'arrête de regarder tout ça. Hein » Pour mon bien. Ouais. Et oui, parce que, bon, après, quand tu vas voir les profils des gens qui te bousillent sur les réseaux, finalement, t'étais pas si surpris que ça. Mais c'est toujours douloureux. C'est dingue parce que tu peux voir 1000 commentaires de « Je t'aime, marie-toi avec moi » et tout, et tu vois un « Nul !» Et c'est celui-là que tu retiens. C'est terrible.
Et alors, si ça peut te rassurer, il n'y a personne qui est au-dessus de ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller les voir.
Non, non, faut jamais. Moi, je ne vais jamais voir les commentaires. Enfin, c'est très rare.
Faut pas. En ce moment, on peut aller voir certains commentaires, mais
oui,
c'est autre chose.
En ce moment, on a un peu le droit. Et en ce moment, il y a des petites pépites. Il y a une petite régalade de bonne nuit. Ouais,
ça n'a rien à voir. on n'a pas parlé de l'écriture, parce que comment t'écris ? Comment ton premier, par exemple
Le premier passage, en fait, je savais qu'on prenait...
Sur la partie stand-up.
Mais parce qu'au début, quand j'ai commencé, vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait un silence de mort pendant au moins 1 minute 30, ce qui est extrêmement long. Quand tu dis, on va faire une minute de silence pour machin...
Ça ne dure jamais vraiment une minute.
C'est très long.
Normalement, ça dure 45 secondes.
Oui, oui. Déjà, au bout de 45 secondes, tu trouves ça atroce. Donc moi, j'avais vraiment ce truc. Et en fait... Je pensais que sur scène, ça se voyait pas tant que ça, parce que j'avais des réflexions dans la vie et tout ça, mais je me disais, sur scène, je fais quand même un effort, j'articule et tout, pas du tout. Et en fait, il m'était arrivé plusieurs trucs sur mes passages à Paris, parce qu'au début, j'habitais encore en Espagne, donc je faisais des petits allers-retours. Et j'avais eu un mec à Pigalle, à qui je cherchais une salle de concert, j'étais à la bourre et tout ça. Donc je lui demande, je l'arrête, il était en scout, il était complètement torché. Et je lui dis, c'est où la rue, machin. Et il me dit, vu que je suis dans le même état que toi, ça risque d'être compliqué. J'ai eu celle-là. Deux jours après, je monte dans un taxi, je lui dis, bonsoir, je lui donne mon adresse, juste mon adresse. Je me tais. Au bout de 3 minutes, il me dit, si ça va pas, mademoiselle, vous prévenez, je m'arrête. Je dis, mais pourquoi ça n'irait pas ? Enfin, tu vois. Et après, j'ai eu le bus où je me suis trompée de bus. Je suis montée dans le 96 au lieu du 69. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne. J'ai inversé les chiffres. Il était 10h du mat, putain. Et il n'y avait personne dans le bus. Donc, je vais voir le mec. Je me rends compte qu'il ne prend pas le bon chemin, tu vois. Donc, je lui dis, je suis désolée, est-ce que je peux descendre maintenant ? Je me suis trompée, je suis fatiguée. Il me regarde vraiment avec dédain. Et il me dit, oui, on ne fait pas que fatiguée, apparemment. Et je me suis dit, putain, il faut que j'en parle, ce n'est pas possible. Et donc, mon premier passage, c'était vraiment sur le fait que je n'étais pas bourrée. Parce que, et c'est là que je me suis rendue compte, mais ça continue encore. Hein. C'est-à-dire qu'hier, j'ai joué deux fois au Madame Sarfati. Je sais que je suis obligée de le dire parce que je leur raconte 2-3 conneries au début et il n'y a aucune réaction. Alors maintenant j'en joue, tu vois, parce que je sais très bien que la finalité, quand je vais leur dire que je ne suis pas bourrée, ils vont être soulagés. Mais c'est du soulagement, ça n'est pas un rire de blague. Dire je ne suis pas bourrée, ce n'est pas une blague en soi. Le rire est la résultante de la gêne qu'il y a eu avant, tu vois. Et de ça, merci, elle est pas bourrée.
De toute façon, les premières minutes, il y a une forme de jugement, on juge la personne.
Bah, sauf quand ça y est, tu commences à jouer que devant un public
qui te connaît.
Qui te connaît. Mais après, tu as un autre type de problème, toujours, c'est que justement, tu joues devant un public de gens qui sont acquis, et donc ça n'a plus aucun intérêt.
Bah, c'est dangereux, ça. Ouais.
Eh ben, ça, il y a plein de gens qui ont arrêté de faire ça, justement parce que c'est insupportable de jouer devant une salle, qui t'est acquise.
Ouais.
Sur la longueur, c'est insupportable. Mmh.
Ouais,
là,
ouais.
Tu n'as aucun plaisir, parce que tu sais que en fait, même quand t'es un peu mauvais.
Mais là, en plus, j'ai essayé hein, pour le passage de Montreux de cette année, parce que tous mes passages Montreux commençaient par « je suis pas bourré ». Donc, à un moment donné, ça devient, si tu cliques deux secondes, tu te dis « attends, c'est encore le même passage ». Donc, j'ai demandé à ce qu'on m'annonce, en n'étant pas bourré, j'y ai pensé dans le train, on allait en Montreux, parce que je n'avais pas de solution, parce qu'on a essayé, avec des collègues qui faisaient Montreux sur le même plateau que moi cette année-là, ils étaient au fond de la salle, j'ai essayé de faire le même passage, j'avais deux passages dans la soirée, sans le dire, four de deux minutes, en le disant, tout va bien. Et quand je suis sortie de scène, ils m'ont dit, t'es condamnée. T'es condamnée, mais ah, oh là là, je suis allée m'inscrire au cercle de la forme. Bon, genre basic fit, voilà. J'y vais, là, il y a trois semaines. Donc, j'y vais en tenue de sport. Avec cette tête-là. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il n'y a pas de, j'ai pas fumé un pet avant ou quoi que ce soit, rien. Eh bien, ils ne nous ont vraiment pas respectés. Enfin, il y avait un côté de jugement, tu vois. Et on ne savait pas pourquoi. On s'est dit, oh ben, ils ont juste un caractère de merde. Voilà, c'est tout. On va quand même y aller parce que ça a l'air sympa. Donc, je m'inscris et tout. Et le copain avec qui je me suis inscrite, il est retourné pour la validation de l'inscription. Et la nana lui a demandé. Et elle a dit, alors, dites-moi juste un truc avec Douli. Vous étiez déchiré la première fois que vous êtes venu pour l'inscription. Et j'ai dit, mais c'est quand même dingue. Enfin, je veux dire, je suis en jogging. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible, quoi. Et je lui ai redemandé, quand j'y suis retournée, je lui ai dit, tu croyais vraiment ? Elle m'a dit, on a failli pas vous accepter. T'imagines les bâtons dans les roues que ça aurait pu me mettre si j'avais choisi un autre métier. Mais parce qu'en fait, personne ne m'aurait pris.
Ah, mais personne.
Jamais. Ouais. Non. Même Yacine, la première fois que je suis allée le voir pour faire les premières fois, il m'a avoué, quand on est devenu copain au bout d'un an, qu'il croyait que j'étais déchirée quand je suis allée le voir la première fois. Et il m'a embauchée. C'est peut-être le seul métier où on t'embauche quand t'arrives déchirée. Et c'est fou, hein. Mais moi, je m'en rends pas compte, parce que les gens qui me connaissent l'entendent plus trop, ce truc déchiré.
Non, au bout d'un moment, on s'habitue, en fait. Mais
moi, je l'ai jamais pensé, par contre. C'est ça qui m'inquiète un peu, c'est que dès la première fois où je t'ai vue, j'ai jamais pensé que t'étais ou ivre ou droguée, jamais.
Il y a deux, trois personnes comme toi, chérie, mais ils sont rares.
On doit être des gros candides, je sais pas, de quoi ça
toi,
relève.
Toi, tu l'as rencontrée d'abord, ou tu la connaissais d'avant?
Non,
je l'ai rencontrée, un soir je suis rentrée dans le salon de la maison où je vivais, et elle était là, et jamais je me suis dit, cette fille est déchirée, cette fille a bu, cette fille, jamais, c'est elle qui m'en a parlé, qui m'a raconté ce qui lui arrivait avec des taxis, des trucs comme ça et tout ça. Et je me suis dit, ah, mais ça doit être parce qu'elle a des yeux très... Vous savez, des grands yeux, et donc les yeux très clairs, très rapidement, ça peut faire...
Et puis moi, je parle très proche des gens, alors peut-être ça peut faire... Mais
et puis
bon,
l'élocution
là... Non, mais c'est l'élocution, parce que surtout, c'est...
Oui, c'est surtout l'élocution.
Et donc, on voit que tu es capable de raconter des histoires, qui te sont arrivées très facilement, mais comment tu procèdes sur l'écriture ? Parce que, est-ce que tu te mets à écrire d'une traite, tu te mets à écrire l'histoire et elle fonctionne. Est-ce que c'est laborieux ? Est-ce que...
Bah, y a des fois des sujets que j'aimerais aborder, mais qui sont quasiment impossibles de rendre drôles. J'avais essayé une chronique France Inter comme ça, mais c'était très dur de ne pas tomber dans le pathos ou dans le... tu sais, un peu genre moralisateur ou des trucs comme ça. Mais
c'était quoi le sujet ?
C'était je voulais dire que quoi qu'il t'arrive, enfin tu peux être quelqu'un de bien à la base, quoi, et que du coup si forcément t'as été éduqué par Dutroux et Guy Georges, forcément tu vas pas être quelqu'un de tout de suite bien, il va falloir passer par plusieurs étapes avant, tu vois. En fait, tout dépend du contexte, mais qu'il faut juger personne, parce que vraiment il y a tellement de parcours de vie et tout. Et que du coup, il y a vraiment... Enfin, tu peux être un enculé et devenir bon à un moment donné, quoi. Ou être quelqu'un de bon et devenir un enculé. Mais c'est toujours les gens que tu rencontres et les gens qui t'influencent là-dessus. C'est pas facile d'en faire des blagues. J'allais trouver deux, trois trucs. Mais la finalité était quand même un peu larmoyante, quoi, tu vois. Enfin, pas larmoyant, mais tu vois, il y a un côté un peu poncif,
donneur de leçons,
bien pensant. Enfin, il y a un truc un peu... c'est délicat de sortir de ça dans ce genre de sujet. Mais non, l'écriture,
mais
Loulou, l'écriture, soit ça va très vite parce que c'est une histoire qui t'est arrivée récemment et que c'est très frais et tout ça.
Oui, mais du coup, quand même, pour qu'il y ait un bon rythme, qu'il y ait suffisamment de vannes, faut
ça
injecter
peut prendre
quand
du
même
temps.
De la vanne
ça
dedans.
Ça peut prendre
et,
du temps, oui.
Et ça, ça peut prendre ouais, un peu ouais. temps.
Ça peut prendre du temps. Et là, tu vois, par exemple, le spectacle tel qu'il est, il fonctionne. Mais il y a encore des trucs que j'ai envie de bouger, quoi. Parce que je sais que ça peut être plus,
ah
plus
ouais.
percutant. Ouais.
Alors, ça fait combien de temps que tu tournes le spectacle?
Celui-là, avec le... Bah, il a beaucoup changé. J'ai pris des bouts du premier spectacle que personne n'a vu, bien évidemment. et après, j'ai fait évoluer, quoi. Et puis, j'ai dégagé tous les persos, et puis machin. Mais celui-là, tel quel, depuis octobre, quoi.
Et tu te poses la ouais. question de ce que, du spectacle d'après ?
Ouais. Pas vraiment. Mais je pense que je partirai moins sur moi. Enfin, tu vois, peut-être plus des sujets génériques, mais... Enfin bon, il m'arrive tellement de trucs à chaque fois. Putain. Bah, en fait, vous en êtes témoin.
Oui.
Récemment. C'était quand même extraordinaire. Parce que je
peut,
venais de...
On peut raconter. Peut-être,
ouais. Mais je venais de sortir de la chronique où je venais de dire qu'il y avait un mec quand même dans le métro qui m'avait dit à qui j'avais proposé une banane qui venait de me dire casse-toi j'en veux pas de ta banane et 5 minutes après on sort et il y avait une SDF sur un banc comme ça et qui disait donnez-moi des sous et moi j'avais qu'une clope roulée quoi. Et donc, du coup, je lui tends ma clope roulée et elle a crié, mais vraiment. En
alors,
plus, il y avait, en
tout
plus,
monde
y
a
avait deux nanas qui venaient de me dire « Oh, c'est trop mignon, on aime bien ce que tu fais et tout. » Et là, elles l'ont entendu, elle aussi. C'était très drôle. Elle a hurlé, elle a dit attends, qu'est-ce qu'elle a dit ?
Je fume pas, connasse.
Je fume pas, connasse. Mais vraiment, je crois que tout le quartier l'a entendu.
En plus, on est dans le 7e arrondissement qui est un des quartiers les plus... qui est le quartier le plus élégant de Paris.
C'est magnifique.
Là, on a eu vraiment la mise en pratique de la chronique. Quoi.
Ah ouais, c'était vraiment là. Et Juliette a dit un truc magnifique, elle a dit « Bienvenue dans la vie de Douli pendant 10 minutes. » Et encore, là, c'est que 10 minutes.
Ah putain, c'est vrai que c'était vrai.
Oui, parce qu'elle a continué à me traiter de pute et tout.
Ouais, ouais,
oui,
ouais.
C'est toi qui m'as dit ça. Ben ça t'arrive tout seul, bon, tu fais « oh, oh. » mais t'es moins relax, quoi. T'éclates ouais. moins de rire, quoi.
Au moins, ouais. au moins, on peut témoigner que les
non.
anecdotes sont vraies.
Ah oui, ouais. c'est-à-dire qu'il m'arrive tellement de trucs, mais je ne cherche pas, mais il m'arrive tellement de trucs que du coup, peut-être qu'il y a moyen que le spectacle d'après ait quand même quelque chose.
Parle encore
ouais.
de toi et de ce qui t'arrive.
Oui, mais...
Donc en fait, le fait d'avoir réussi à être... à vivre de ce métier, puisque finalement,
ouais.
C'était ça le truc.
Oui.
Ça... Est-ce que tu en es au moment où tu te dis... quand tu t'assois 2 minutes, tu te dis « bon, bah, je l'ai fait ».
Pas du tout.
Pas du tout, hein. T'es
ouais.
tout le temps vers...
Ouais, ouais. Mm. On n'est pas du tout là-dessus. C'est terrible. C'est terrible parce que tu te rends pas vraiment compte, en fait, quand t'es là-dedans. Et non, je réalise que c'est chouette.
Il y a toujours des étapes supplémentaires, parce qu'on
bah,
en
oui.
parlait un petit peu en début. Et là, on peut y revenir, mais du coup, tu fais du cinéma maintenant.
Ouais.
Et c'est peut-être là où tu prends
un autre
ouais. plaisir. Et...
C'est chouette aussi, Cinoche. Enfin, je pense que si tu tombes... Moi, je suis tombée que sur des chouettes équipes. C'est assez dur d'être sur un tournage avec des gens que tu n'apprécies pas pendant 3 mois non-stop, parce que tu es vraiment en huis clos.
Non, mais maintenant, les films, ils n'ont plus de fric, donc le tournage, il ne dure pas trop.
C'est vrai, ça. C'est vrai, 3 semaines.
Au pire ouais,
on a 15 séquences à rentrer dans
ouais,
la journée,
voilà,
les gars.
Alors, on y va, il y a une prise.
Ok, elle était parfaite.
Elle
mais
était
non,
pas... mais le son, complètement... mais j'avais pas mon micro.
C'est pas grave.
On
mettra en post-synchro.
Parce que c'est ça, hein, le ouais, niveau ouais. économique en ce moment de l'audiovisuel, c'est ça.
Ah oui, parce que moi, il y avait un film où je devais. Alors, je reçois le scénario et je suis au volant tout le film. Et donc, j'appelle le réal. Je lui dis, mais t'es au courant que je n'ai pas le permis? Et il dit, bah, t'as 6 mois pour le passer. Bon, pas du tout. J'ai téléchargé une appli de code, mais j'avais envie de l'emplâtrer. Vraiment, je comprends. Je faisais des screenshots au pote. Je leur dis, mais pourquoi la flèche, elle part en deux, là, quand c'est une catastrophe. Heureusement que, alors, en août, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je n'aurais jamais ce permis. En plus, c'était une bagnole des années 60. Enfin, tu vois, le truc où il faut tourner 30 fois, j'aurais tué un technicien, hein, basiquement. C'était l'inévitable. Mais tu vois, là, ils auraient pu... Finalement, ils m'ont donné un autre rôle. Ils auraient pu me dégager du film aussi, hein. Donc, ce qui est dommage, mais avant, ils te mettaient sur un tracto machin, là.
Ah, oui, une voiture travelling.
Ouais, voilà. Ouais. Sauf que ça coûte une blinde, et comme il n'y a plus d'oseille, et ben du coup...
Ah ben moi, c'est pareil, je conduis, hein. Tous les derniers films que j'ai fait, je leur disais, non, mais moi, j'ai pas le permis, je ne veux pas le passer. Ah, mais c'est pas grave, on s'arrange. Et
ouais.
On s'arrange.
Oui, c'est
donc
ça.
Donc moi, j'ai conduit dans des endroits...
Ah, t'as vraiment conduit.
Ah, oui.
Oui, alors, mais oui. Moi, il me faut genre 10 km carrés où il n'y a pas un arbre et pas un mec sur le plateau, quoi.
Ben, moi, j'avais le dernier, j'avais un technicien qui a passé, le ma mine qu'il était gentil. Il m'a fait conduire pendant trois quarts d'heure.
Oui, c'est ça.
Pour que je me réhabitue, parce que je sais à peu près. Donc
ah oui, moi, j'ai
mais
pas
par
du
contre,
tout.
J'ai pas le permis.
Aucune
hein.
notion.
Donc, s'il arrive un truc...
Bah, les assurances, c'est...
Ah bah, tout le monde est mort.
Ouais, ouais. Ouais, ouais. Vraiment. Mais oui, c'est vrai.
Et on te propose des bons rôles au cinéma, enfin...
Là, bah, là, ça s'est un peu calmé, mais ça va reprendre, je pense. Mais je pense que... Ce que je trouve dommage un peu, peut-être je dis de la merde, hein, mais il y a beaucoup, je trouve là, de plus de cité bankable que cité bon. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un peu ce côté, et que je ne retrouve pas que dans le Cinoche, hein, dans tout d'ailleurs. Parce que même sur des plateaux, tu te dis, mais là, ce n'est pas cohérent, mais tu n'as que des têtes d'affiche en fait.
Ouais, ouais.
Et du coup... Je trouve que l'artistique, il est un peu mis de côté, un peu trop dernièrement. Enfin, c'est mon sentiment. Moi, je ne suis pas quelqu'un de bankable. Enfin, on ne peut pas appeler ça bankable pour le Cinoche, quoi. Tu vois.
Mais si, il doit... si, ça commence à l'être. Si.
Oui, peut-être un peu. Mais, ouais. Mais tu vois, je sais que sur certains trucs, là, on a mis des gens beaucoup plus bankable à ma place, alors que ça s'était très bien passé. Mais, et je comprends. Tu vois, je ne le prends pas personnellement. Mais
ça, c'est quelque chose qui va venir, enfin, qui me paraît inévitable chez toi. C'est qu'à un moment, tu seras la tête d'affiche parce que...
Inch'Allah.
Ouais, mais parce que on t'identifie quand même assez clairement.
Oui, ça oui, mais peut-être trop quelquefois, justement, pour certains rôles.
Voilà,
tu vois.
Mais tu vois, Jean-Pascal Zadi, ça a été son problème aussi. C'est ouais. Qu'on l'identifiait peut-être un peu trop.
Bah, Jean-Pascal, il a été adorable parce que sur sa série, bah, il m'avait appelé, je crois que c'était le deuxième confinement ou un truc comme ça. Et il m'appelle, il me dit, oui, j'ai besoin de toi pour un rôle de flic. Et à ce moment-là, je sortais d'un tournage avec Jacques Doyon. Et j'avais les cheveux roses. Et je lui dis, alors là, non, parce que du coup, j'ai les cheveux roses et j'ai quand même beaucoup de tatouages. Donc, je pense que tu devrais prendre quelqu'un d'autre pour ce rôle. Il m'a dit, non, je veux que ce soit toi et tout. Donc, ils se sont fait chier à m'enlever tous les tatouages. En plus, c'était pendant le deuxième confinement, donc il n'y avait aucune boutique d'ouverte pour enlever les tatouages, parce qu'il y a des super produits maintenant. Ils m'ont teint les cheveux en brun et tout pour un tout petit truc, quoi. Mais il est cool, ce mec, d'ailleurs.
Oui, ouais. Mais tu vois, on l'identifiait, il a... Peut-être un peu trop, mais au final,
il devient
bankable à un moment.
Je pense qu'il faut un truc qui fait démarrer le truc.
Après, il faut savoir aussi qui on est et que tout le monde ne peut pas avoir le physique de François Cluzet, c'est-à-dire pas de physique.
C'est ça, exactement. Ouais.
À partir du moment où tu as un physique marquant, d'une manière ou d'une autre.
Et une voix.
Et en plus, après, toi, tu parles.
Bah justement, en parlant d'absence de charisme, François, toi qui...
Oui, bonjour.
Mais tape-le!
Attends, j'ai une question. Il y a du fromage là-dedans, chérie, ou du beurre ou du...
Ah oui.
Ah oui, fromage, oui, oui. Ouais.
Ah, donc voilà. Je vous le laisse. Ça, peut-être, j'ai le droit.
Oui.
C'est des madeleines sans rien?
Sans rien, je crois.
Ah, génial.
Oui, parce que...
Non, mais c'est moi la relou.
La noix de coco, tu le digères?
Ouais.
Tu veux que je te fasse une petite assiette?
Non.
J'ai un dalle aux lentilles, je te fais une petite assiette.
Non, c'est très bien, ça, chérie.
Ok.
Un petit goûter.
D'accord.
Attends, ça fait du bruit.
Non, c'est pas grave, hein, t'inquiète.
Non, je débrouillerai.
Tu débrouilleras ?
Non, c'est Ramzy qui réalise.
C'est moi le réalisateur.
Tu débrouilles.
Toi, François, on parlait tout à l'heure des acteurs bankable, tout ça.
Oui.
Tu disais que...
Tu parles de moi, là ?
Non, justement. Justement, toi, t'as fait pas mal de casting. Est-ce que t'as souffert ?
Ouais.
Tu en fais quelques-uns, non ?
Un petit peu, oui. Oui,
ouais. Est-ce que t'as souffert de ça, de pas être quelqu'un de connu, de pas...
Bah,
Est-ce que j'ai souffert d'être pas être quelqu'un de connu? C'est violent quand même comme question.
Non, c'est existentiel.
Autant c'est souvent un connard, on me dit, mais là vraiment,
Mais je comprends ce que tu dis. En fait,
j'ai pas dit d'être mauvais. Hein.
Non, mais j'ai bien compris.
Pourtant, je le pense.
Je sais. Enfoiré. Non, mais en fait, moi, j'ai fait des castings à un moment où j'étais un peu en construction de comédien. Il y avait des choses où j'étais un peu fragile. Donc,
ça va se terminer quand cette construction?
Je sais pas.
Qu'est-ce que t'appelles construction de comédien?
Eh ben, tu vois, j'étais à l'époque où j'étais à Pygmalion, ou un peu après, où en fait je voulais travailler, donc j'avais un agent parce que j'avais fait mon court métrage et j'avais un agent et en fait j'étais avant réalisateur avant d'être comédien.
D'accord.
Et en fait,
dans ton court métrage, tu t'es pas donné un rôle?
Si j'ai un caméo, quoi. Oui, mais comme c'était mon premier, non, je voulais me concentrer sur la réal. Parce que c'est difficile.
Je trouve ça toujours un peu gênant quand les gens réalisent et se donnent le rôle principal.
Ouais. Après, non, parce que j'ai pu m'écrire des choses où je m'écrivais le rôle principal, tu vois.
Oui, mais ça me gêne. Ouais.
D'accord, bon, ok. Mais en fait, non, c'est que j'ai fait des castings à un moment où en fait j'allais sur des trucs où en fait je voulais pas y aller, j'étais pas à ma place, sans me la péter ou quoi, mais c'était des pubs, des téléfilms, et en fait je me sentais pas bien. J'y allais parce que mon agent me le proposait, donc par courtoisie et tout ça.
Ouais.
Mais
et puis pour apprendre aussi.
Oui,
parce
pour
que
apprendre.
Parfois,
parce que ouais, pour moi, l'exercice du casting est très dur.
Le casting,
pour
c'est
moi.
Un exercice
ouais.
super compliqué.
Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je suis très très loin de ça. Comment vous vivez ce moment? Vous pouvez raconter un peu? C'est quoi le...
Humiliant.
Ouais.
Non, ça s'arrête d'être humiliant.
Ouais,
ça s'arrête d'être dur le jour où tu... Alors, moi,
où tu décides.
Moi, ce que j'ai compris sur mon truc, c'est le jour où j'ai pigé. Parce que moi, j'ai casté des gens.
Ouais.
Et j'ai pas. Et j'ai choisi. Je me suis rendu compte ce qui dictait mes choix et que c'était pas, par exemple, je voyais passer 15 comédiennes pour un rôle. Et je me rendais compte que je ne choisissais pas la meilleure. Mmh. Je ne choisis pas celle qui, objectivement, était la meilleure. Celle qui avait la meilleure technique, qui recrachait le texte impeccable, qui avait chopé chaque intonation, qui s'était approprié de ça. Je choisissais celle, à chaque fois, qui, moi...
Te touchait.
Me touchait. Et même si je voyais des tas de défauts que d'autres n'avaient pas, en revanche, et donc je me suis dit, si moi je réagis comme ça... sans y avoir pensé. Alors, ça veut dire que c'est ça qui se joue dans un casting. Mmh. Et alors, donc, je ne prendrai plus jamais personnellement le fait de ne pas être prise. Parce qu'il y a des choses que je ne sais pas et que c'est le directeur ou la directrice de casting
mais
ou le réalisateur
ça,
et la réalisatrice.
Mais oui, mais en plus, au-delà de ça, c'est que tu as beaucoup de décisionnaires selon les projets. Donc, ça veut dire que, imaginons, il y a 10 décisionnaires, il y en a 9 qui peuvent te valider. Si le 10e dit non, moi, je veux lui ou elle, eh bien, salut. Et au final... ça remet pas en question ce que tu as donné.
Non, ou ton
voilà,
talent,
c'est ça. L'idée, c'est qu'il faut pas sortir des castings.
Et prendre personnellement.
Quand
on rate, je sais pas, t'en as raté combien
J'en ai raté plein.
Mais moi aussi.
Moi, je sais même plus combien j'en ai raté.
Moi non plus.
C'est la majorité.
Vous arrivez quand même à vous détacher de ça.
Oui, oui.
Moi, depuis que j'ai compris ce truc.
D'accord.
Et qui m'est arrivé il y a quand même longtemps, oui, je m'en fous complètement. J'apprends le texte, j'essaye d'être correcte. Par contre, je donne pas. Je m'arrache pas le cœur pour rien. Je fais. S'ils sont contents, ils prennent. S'ils sont pas contents, ils prennent pas. Voilà. Okay. C'est ma limite.
Non, mais je suis toujours en construction quand même, finalement. Ouais.
Non, mais il y a deux, trois projets. Quand on te donne tout le scénario à lire, par exemple, et on te dit lis tout le scénario, et que là tu te projettes, et c'est là que ça devient. Frustrant. En fait, c'est au-delà du fait qu'on t'ait pas pris, c'est que tu t'imaginais vraiment faire ce truc parce qu'il te plaisait, quoi. Vraiment. Ouais. Tu te sentais vraiment à l'aise dans ce truc-là et tu t'imaginais tout ce que tu pouvais apporter à ce truc-là. C'est frustrant. Je le prends pas personnellement, mais il y a une frustration. Il y a une petite tristesse.
C'est un travail quand même important. Vous êtes pas payé?
Non.
Non,
c'est comme un entretien d'embauche.
C'est pareil.
Sauf qu'on te demande de travailler. Qu'on te demande de lire le scénario, d'apprendre des scènes.
Quand tu veux un entretien, tu prépares ton entretien aussi.
Non, mais c'est pas pareil. C'est un engagement qui est.
C'est quand même une implication.
Mais je suis d'accord.
Surtout que le métier s'est ubérisé aussi et que maintenant, on demande très souvent de faire des tapes.
Moi, j'ai été plus prise sur des tapes qu'en casting.
Mais moi, je trouve ça encore plus violent les tapes que le...
Bah, j'ai été prise sur des tapes à la rage que j'ai tournées à l'autre bout du monde. Ouais. Et vraiment, où on me disait, il n'y a pas assez de lumière, je disais, oui, mais là, je ne vais vraiment pas la refaire. Et t'es pris. Alors que tu te fais chier, tu te saignes le cul pour faire un truc à Paris et que t'as appris 20 pages de texte. Non. Donc, il n'y a pas de règles, quoi.
Les castings sont filmés, c'est, ouais, c'est vraiment l'image, le cliché de ce qu'on a.
Et en général, évidemment, ils te font passer une scène où il y a plein de trucs que tu ne peux pas faire, c'est-à-dire une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme, etc. Ça. Avec quelqu'un qui te donne, dans le meilleur des cas, t'as quelqu'un qui te donne à peu près bien la réplique. Tu peux avoir aussi...
C'est de mieux en mieux, j'ai l'impression. Ça, ils prennent quand même des gens qui te donnent, qui interprètent un peu avec toi. Ouais.
Qu'est-ce que tu entends par des choses qu'on ne peut pas faire?
Ouvrir une porte.
C'est-à-dire
Ou dans la scène, tu fais la cuisine. Et ben, alors, donc
ah,
tu fais la cuisine.
Il n'y a pas de cuisine.
Donc, tu n'as rien. T'es là, tu sais
que tu dois mimer, quoi. C'est un time up.
Et donc, c'est un truc...
Mime Marceau.
Dans n'importe quelle scène, en gros, n'importe quelle scène que tu peux imaginer dans un film, par exemple, en général, les gens sont en train de faire quelque chose. Mmh. Ils sont en train, de faire à manger. Ils sont en train de marcher. Ils sont en train, ils s'assoient et ils discutent avec quelqu'un et ils boivent un coca en même temps. Ouais. Là, tu dois tout imaginer. Tu ne sais pas quoi faire de ton corps. Tout d'un coup, tu te dis, bon, les bras, ça sert à rien. Je vais les mettre comme ça.
C'est vrai que les bras, c'est un truc chiant.
Vraiment, les bras, ça sert à rien en casting.
Si on pouvait démonter les bras, on aurait démonté les bras pour le casting.
Ce genre de truc, c'est très et voilà, moi j'aime pas le mime. Et tu te retrouves à faire du mime et c'est odieux, je déteste le mime.
Ouais. Voilà. Ou alors, attends, j'ai eu aussi ça pas mal, de genre, t'apprends trois scènes et t'arrives, on te dit, non, mais on va plutôt faire celle-là que tu découvres. Et tu te dis, très bien.
Et est-ce que c'est pour te piéger? Est-ce que c'est
Non. Alors, parfois, tu vois, la dernière fois, je crois qu'ils ne trouvaient plus les scènes. ils ne les avaient pas sur papier. Ils ont dit, bah, du coup, on va faire celle-là, c'est très bien. Et du coup, vraiment, pour le coup, t'arrives à blanc, quoi. Ouais.
Mais toi, tu l'as pas, la scène?
Non, tu la lis, du coup.
Non, mais la scène que tu devais faire.
Ah non, ils te la font pas faire, du coup. Ouais.
Mais
toi, tu pouvais la faire, non?
Ils n'ont pas la réplique.
Ils n'ont pas de photocopieuse pour photocopier ton texte à toi.
Non, c'est arrivé.
Et après, il y a un autre truc qui est super énervant, c'est que la Douli, elle commence à avoir des images d'elle. D'elle en train de jouer, et pour autant elle continue à passer des castings, et donc il y a forcément un moment où tu te dis, mais c'est pas compliqué de savoir comment je joue, est-ce que je donne à l'image,
mais tu sais, mais que c'était
donc il y a un truc qui est un peu humiliant aussi dans le fait de te dire, je sais pas, tu vois,
sauf
à peu près
si c'est un rôle qui est vraiment différent de toi, là, d'accord,
jamais un rôle vraiment.
Là, on m'a fait passer des trucs improbables et que j'ai trouvé super, d'ailleurs, des procureurs, des machins, des trucs, j'ai trouvé ça génial, mais merde, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est vrai que oui, ça c'est...
Mais ça, le problème de ce que tu dis, Juliette, c'est qu'en fait, du coup, on va te proposer que des rôles type pour toi. Par exemple, toi, tu me disais qu'on te proposait que des rôles de maîtresse ou de femme trompée, je ne sais plus.
Non, de maîtresse.
De maîtresse, voilà.
Mmh. Mais grâce à Dieu, je n'avais pas la femme trompée.
Mais voilà, mais avec cette façon de faire, et si tu t'évites le casting...
Un joli très particulier.
Si.
Ça ne t'intéresse pas.
Pardon.
Si t'évites l'étape du casting, on va te proposer que des rôles... que les rôles standard pour toi. Et donc, le standard pour toi, c'est la maîtresse ou la femme trompée. Ouais. Le standard pour Douli,
c'est la junkie.
Est-ce qu'on dit ton emploi, quoi.
Voilà, c'est ton emploi.
Prostituée.
Et en fait, on ne proposera jamais autre chose.
Oui, mais...
Il faut vraiment que la personne se dise, j'ai vu en elle
la petite étincelle du truc. Il ne faut pas être... susceptible, parce que souvent les mecs dans le scénar, ils ont pas encore vraiment identifié le personnage, donc tu as la description, il a même pas de nom ton perso. Moi j'avais reçu junkie 30 ans abîmé, alors junkie 30 ans, ok, abîmé, j'avais dit, vous avez l'intention de m'abîmer ou non, comme ça, très bien.
Tu remarqueras que quand c'est les personnages féminins, il y a toujours la description physique.
Ouais. Ah non, et on m'a donné, ça c'était un film avec Alex Lutz, et le personnage c'était un clochard. mais un clochard au masculin. C'était pas la clochard, c'était le clochard.
Ouais, faut pas être susceptible.
Et est-ce que toi, Douli, parce que moi, c'est vraiment une souffrance, ce casting. Je le fais, mais c'est vraiment dur émotionnellement. Est-ce que toi, comment tu le vis d'ailleurs ?
Moi, ça va. Je te jure que ça va, vraiment.
Enfin, dès le début, ou t'as appris ou...
Non, au début, c'était horrible. Ouais. Mais j'ai surtout passé des castings avec des potes directeurs de casting au début. Donc ça allait. C'était toujours un peu violent, mais ça allait. Et là, maintenant, j'y vais vraiment. Écoute, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis, quoi. Tu vois. J'ai arrêté de me mettre... Je me mets la pression pour apprendre le texte, ouais, pour lire le scénar, s'il faut lire le scénar et tout ça. Mais une fois que tu as bossé comme un dingue, en plus, tu bosses pendant une semaine comme un dingue pour apprendre des textes qui ne sont pas du tout intuitifs et tout ça, machin, tu te dis, bon, ben là, à partir du moment où j'ai fait tout ça, tant pis, quoi. Enfin, tu vois, si ça ne prend pas, ça ne prend pas. Ouais. Donc, j'ai arrêté de... Et de voir le directeur de casting comme un monstre qui a envie de t'aplatir, en fait, en général, même s'ils ont tous un peu leur caractère, en général, c'est quand même des gens cool. Enfin, moi, je suis tombée sur des gens cool. Ouais. Mais tu vois, Jacques Doyon, par exemple, j'avais adoré parce qu'il ne m'avait jamais vu. Le mec, il a 30 ans de film dans la gueule. Et on a discuté pendant une heure et demie. C'était ça, le casting. On a discuté de la vie. Et c'était chouette, et c'était beau, et c'était joli, et c'était mignon, et c'était vraiment cool, quoi. Et après, au bout d'une heure et demie, il me dit, ah oui, c'est vrai, au fait, faut que tu fasses la scène. On a fait une prise, et il m'a dit, bon, bah, je te rappelle, et il m'a prise. C'était plus humain.
Et c'était un rôle loin de toi ? Enfin, loin de l'image que...
Non,
tu veux pas en parler ?
si. Mais j'avais les cheveux roses. J'étais la mère d'un enfant maltraité. Enfin, non. En fait, c'était
maltraité
sûr.
Par la mère ?
Non.
Par toi ?
Bah,
toi, tu me l'as maltraité.
Si tu veux, j'étais un peu alcoolique et j'étais un peu gogo danseuse. Oui. Mais pas exagéré. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas dans la caricature. C'était juste que c'était un film sur le harcèlement à l'école. Mon fils était le harceleur. Et c'était pour montrer que le harceleur ne devient pas harceleur du jour au lendemain. Il s'était fait harceler quand il était petit et il avait une vie de merde, décousue, avec une mère qui s'en foutait, qui avait des amants et tout, qui les ramenait à la maison. Enfin, tu vois.
Et toi, ça te pose...
Dis-moi, chérie.
Non, mais parce que moi, on m'a proposé de jouer des trucs de femme alcoolique, ouais. Et j'ai refusé catégoriquement, ne serait-ce que de passer les essais.
Ouais.
Parce que, comme il y a des cas d'alcoolisme autour de moi,
ouais.
Très près...
Ouais, moi aussi.
Je trouve ça très bien qu'il y ait des gens qui le jouent, qui l'incarnent, mais moi, ça m'est impossible.
Non, ça me dérange pas, chérie.
Ouais.
Non, pas du tout. En plus, j'aime jouer les mecs bourrés, hein. Ça me fait rire.
Les mecs ?
Enfin, les nanas, enfin, les gens bourrés, quoi. J'aime faire un peu le... Ça me fait rire de l'accentuer un peu. Mais là, tu vois, dans le film de Jacques Doyon, qui ne sortira peut-être jamais, parce qu'il y a eu un petit souci avec la production, mais là, c'était pas exagéré, tu vois. On comprenait. Il n'y a qu'un soir où je rentrais un peu pété avec un amant, tu vois. Mais sinon, c'était juste qu'on comprenait qu'elle avait une vie d'arrachée, la nana. Mais j'étais pas arrachée dans le jeu, tu vois.
Oui, c'était sa façon de tenir. Elle picolait, mais elle tenait l'alcool.
Oui, c'est ça. Je comprenais qu'elle avait une vie un peu décousue, mais elle n'était pas... il ne fallait pas que je joue la poivrasse, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Juste un soir un peu éméché en rentrant de soirée, quoi. Mais pas démesurément, quoi. C'était pas au fond d'un caniveau, quoi.
Eh bien, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter.
C'est vrai ?
Ça va vite, hein.
Ça va vite, hein, putain.
Merci.
On peut rester
beaucoup,
longtemps
Douli.
Avec vous comme ça.
Douli, on te retrouve sur France Inter au moins jusqu'en juin.
Ouais.
Pour nous raconter.
Advienne que pourra. on te retrouve sur scène aussi. Tu joues où ?
Au Trianon à partir du 1er novembre.
Ah, super.
Ouais. Il faut la remplir, cette salle.
Ah, là, avec la fabrique, ça va remplir.
Ouais.
C'est une belle salle.
C'est une belle salle. Je suis allée la voir. Je me suis assise sur tous les sièges pour savoir, même celui qui a payé sa place, savoir s'il était quand même bien
merci.
Installé.
Ah oui, parce que moi j'ai horreur de ça. J'ai fait, je sais plus quel.
Forestier.
Le spectacle de Forestier, mais je sais plus dans quelle salle.
Renaissance
Peut-être, ouais. Et vraiment,
T'as rien
ils
vu.
Auraient mieux fait de nous mettre à la cafette avec l'audio, quoi, parce ouais, qu'on voit strictement rien.
Non, c'est pour ça.
C'est précisé, visibilité réduite.
Ouais.
Mais tu te dis réduit, pas.
Non, j'ai fait tous les sièges de la salle. J'ai fait tous les sièges super. De la salle jusqu'en haut et j'ai vu où est-ce que je pouvais pas aller pour respecter le mec qui super. Avait quand même mis 25 balles, tu vois.
Bon, bah. Alors, raison plus pour y aller.
C'est un super bel endroit, le Trianon.
Ouais, il est chouette. Je voulais faire les Bouffes du Nord, mais j'ai pas eu le temps de les visiter. Donc, pardon, chérie, je t'ai
coupé. Vas-y, vas-y.
Non, mais le Trianon, c'est canon.
Ouais.
Oh, c'est joli ça, le Trianon, c'est canon.
J'ai pas fait exprès pour ça.
Merci, Lily. Merci, Juliette.
Merci, François.
Merci,
Juliette. Merci, François. Merci, Juju.
Merci, Ramzi.
Et à bientôt pour un prochain épisode.
À bientôt.
Allez.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.